Vous entrez dans les ateliers de la nuit. Après un silence qui a duré presque 28 jours suite à la grève à Radio France, les ateliers de la nuit reprennent le micro. On monte le son et Thomas Baumgartner propose de fêter ce qui nous a manqué et ce que la radio publique permet, les expériences poétiques et musicales. L'atelier du son, tout au long de l'année, questionne la place du son dans nos vies, fait des liens entre la radio, le cinéma, la musique, la ville, la rue, l'intérieur de nos maisons, puisque tout est connecté, puisque le son, la parole, les voix relient toutes les sphères de la vie. La radio publique permet de faire émerger des artistes, de donner du temps à la parole, de faire que le son se déploie sans contrainte. Elle rend l'expérience poétique possible. C'est donc à cette fête que Thomas Baumgartner vous invite, une sorte d'ode à la radio que nous aimons, voix, musique, son et des invités de choix et de cœur.
Mental Radio, Matmos. Bonsoir à vous, bienvenue dans l'atelier du son. En raison d'un appel à la grève par plusieurs organisations syndicales portant sur les difficultés budgétaires de Radio France et la défense de l'emploi, nous ne sommes pas en mesure de diffuser l'intégralité de nos programmes habituels. Vous avez entendu cette phrase plusieurs fois par jour pendant 28 jours. Les émissions ont repris, ce qui signifie que la mobilisation change, que la vigilance demeure pour que nos radios restent des radios de service public. Mais ce n'est pas simple de reprendre. Après tout ce temps, on a fermé les écoutilles pour descendre au plus profond du sous-marin pour s'intéresser au plus près de sa mécanique. On n'en est pas encore complètement revenu et au fond, on n'en reviendra sans doute pas complètement. 28 jours de grève, c'est 28 jours de discussion, c'est 28 jours de débat, c'est 28 jours où beaucoup d'entre ceux et celles qui font la radio mettent sur le tapis leurs idéaux, leurs envies, leurs fondamentaux. Ils les proclament debout et en public et ce n'est pas facile. Peut-être avez-vous tout compris à ce mouvement, peut-être n'avez-vous rien compris, peut-être souteniez-vous, peut-être pas, peut-être que ça vous énervait, peut-être que ça vous a lassé. 28 jours, quoi qu'il en soit, ce n'est pas une grève, c'est un manifeste, parfois confus, parfois dur, souvent enthousiasmant, ça libère la parole, ça nous met face à ce qui nous meut au plus profond, fabriqueurs et écouteurs de radio mélangés. Ce soir, vous nous écoutez en direct, vous nous écoutez en podcast, vous nous écoutez dans la rue, sur mobile, en voiture, sur l'eau, en totalité ou en morceaux. C'est dingue toute cette modernité. Vous nous écoutez pour une émission de retour aux ondes, une émission de reprise qui met le live à l'honneur, le son vivant qui teinte, la musique vivante, après 28 jours d'un ruban de musique en boîte, par la force des choses. Et ils sont quelques-uns à avoir répondu présent pour cette ode donc au son vivant, à cette invitation in extremis du dernier moment. Merci à tous d'être là autour de la table. Emmanuel Gibello, bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, on est nombreux autour de la table, il y a plus de gens que de micro, donc il faut se pencher, il y a un petit décalage. Vous avez fabriqué une machine pour l'occasion quasiment, non? Pour ce soir.
La machine existait déjà, ouais. C'est le MOLF, ouais. Mais par contre j'ai effectivement fait une petite création qui va s'improviser dessus, qui reprend des archives que j'ai récupérées par rapport à la grève, en fait, des archives d'AG et autres.
Oh là là, alors et ça s'appelle, il y a un titre déjà.
Radio en vie.
Ah c'est bien ça. À côté de vous, il y a Andy Hemmler, bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, vous vous penchez aussi vers le micro, vous êtes à côté d'Emmanuel Gibello. Vous étiez venu dans l'atelier du son pour un exercice un peu particulier il y a quelques temps, quelques mois. On vous avait mis des ambiances sonores dans les oreilles et vous aviez mis votre piano
il fallait
en
improviser
accord.
Dessus. Oui,
voilà,
il
fallait improviser avec ça. En ce moment, vous préparez quelque chose pour l'orchestre de Lille, l'Orchestre National de Lille.
Oui, ils ont envie de faire de la musique actuelle. Ouais. J'ai envie de dire, j'appelle ça comme ça parce que c'est des musiques présentes en fait, des gens qui ont issu du rock, du jazz, du 20e siècle, la musique classique et autres. Et donc ils m'ont demandé un concerto pour trio avec contrebasse, batterie, piano et l'orchestre de Lille par Jean-Claude Casadesus.
Ouais. Ouais, création fin juin.
Création fin juin.
Voilà. Alors, Jean-Michel Espitalier, poète, vos papiers.
Bonsoir.
merci d'être là, vous aussi. On vous écoutera tout à l'heure pour une performance, je ne sais pas comment vous dites.
Une lecture.
Une lecture,
toute
simple. Comment va la batterie?
Bah, elle se porte très bien, ouais, ouais, ça va. Un peu bruyante toujours. Mais
ouais. Ouais, oui, on vous avait entendu, vous étiez venu avec Jérôme Gamme pour un printemps des poètes, je me rappelle. Ouais, ouais. Et donc vous êtes batterie-voix et vous étiez à la batterie, vous êtes un poète-batteur. Je ne sais pas s'il y a des batteries dans la salle des machines. Vous avez publié ça chez Flammarion, salle des machines, tout récemment.
Bah, disons, en tout cas, c'est vrai que, mon écriture est très rythmée, elle est très habitée par tout ça. Quoi.
Un trio est là aussi. Alors, disséminé autour de cette table, Jacques Bérocal, Vincent Eplé, David Fenech, bonsoir.
Et bonsoir.
Alors, on vous invite aussi, vous avez accepté cette invitation. Merci à vous aussi pour un morceau qui va clore l'émission et qui est issu d'un travail d'assez longue haleine. Il y a un album qui arrive et qui est le résultat de d'un travail de quoi, au moins trois ans
de session qu'on a fait dans nos studios respectifs. L'album va sortir là, tout récemment, fin du mois, et on a joué deux morceaux, dont un qui est sur le disque et un qui est spécialement pour vous,
ah ouais,
mais qu'on joue en ouverture souvent de nos concerts aussi.
D'accord, voilà. Spécialement pour nous et l'ouverture des concerts.
Et puis la réouverture de la radio, comme ça.
Ouais. Ah bah c'est parfait ça. Il y a un titre à l'album qui arrive.
Il y a un titre qui s'appelle Anti-Gravity.
C'est bien ça.
C'est le titre de l'album, ouais. Voilà, et puis vaste programme. Et puis et là, on a joué deux morceaux, dont le premier est Joy divisé. Jeu de mots, certainement. Et le deuxième, c'est Spain. Mmh. Voilà.
Spain, ben ça, c'est le pays où, où la sourdine de votre trompette a failli... Vous avez failli la perdre, Jacques Bérocal.
Oui, c'est vrai, j'ai failli la perdre, oui.
Elle est tombée du haut d'une tour à Saint-Jacques-de-Compostelle.
Du haut d'une tour de la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle. Je jouais avec l'orchestre de Gilbert Hartmann. Je crois que c'était un festival. Et la sourdine est tombée. Mmh. Et j'ai cru qu'elle était perdue. Bon.
Ou tomber sur la tête de quelqu'un.
Ou tomber sur la tête de quelqu'un, oui, c'est vrai. Non. Vous voyez, l'égoïsme, ça va chercher. J'ai pensé d'abord à la sourdine. Plutôt. Et en fait, c'est un carabinier qui me l'a ramenée. Et elle a une bosse, je vous ai montré tout à l'heure, et je la garde. Parce que
bah oui.
Mon frère a un peu honte parce qu'il aime bien les choses plus professionnelles, mais moi je la garde.
Ouais, c'est bien une sourdine un peu cabossée, voilà, surtout quand il y a une histoire derrière.
Voilà, elle a une histoire.
À côté de vous, Jacques Bérocal, il y a Kalitka. Et bonsoir, Kalitka.
Bonsoir, bonsoir.
Alors, vous revenez avec quelques sons ou quelques envies de sons du Mexique. C'est un de vos derniers voyages, c'est ça?
Oui, c'est ça. Alors, ce n'est pas des sons du Mexique. Ouais. C'est une expérience faite là-bas, d'improvisation, de liberté dans un jardin où il y avait 8 enceintes installées. Donc, ça a été... une excitation que de proposer des improvisations dans ces enceintes. Donc c'est devenu une installation en fait qui a dû rester quelques mois, donc tous les jours diffusée, mais ça m'a permis aussi de faire un concert en live avec cette installation incroyable. Quoi.
Et ça devient quelque chose qui s'appelle Parfum de son, qu'on peut entendre en ligne sur un compte Bandcamp. On met le lien d'ailleurs sur le site de l'Atelier du son, sur franceculture.fr, Kalitka, et qui va devenir un spectacle. Donc ça, c'est votre aussi, travail ouais. En cours. Et ce soir, pour commencer cette célébration du son vivant, de la musique en live, c'est vous qui ouvrez le bal de l'Atelier du son.
Mais
avec
ouais, ça,
une petite machine que vous avez dans la main, une triple Wii, c'est ça?
Triple Wii. J'ai jamais joué à la Wii, mais j'ai trois manettes qui me permettent de jouer avec le son.
Jouer avec le son, avec cette manette de jeu vidéo.
C'est devenu un instrument complet, en fait. En fait, j'ai souvent joué seul, en marchant dans la rue, j'ai plein de sons dans la tête, et ça permet de jouer simultanément ou de composer des musiques très rapidement. Quoi.
De permettre à chacun d'entendre ce que vous avez dans la tête.
Ah oui, ouais.
Kalitka, l'homme du tour du monde en 80 voix, c'était le titre d'un autre spectacle, ça on vous écoute alors ce soir dans l'Atelier du son.
Bah, okay, ça me donne envie de faire une improvisation.
Allons-y.
Do the zack, 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 do the
Kalitka qui se démultiplie en temps réel. Elles étaient là, les 80 voix.
Alors, personnellement, tout a commencé quand j'étais assez petite, où on écoutait beaucoup chez moi et dans les colos que je faisais, des fictions sur vinyle. Et je m'en suis rendu compte de ça. C'est qu'un jour, je me suis retrouvée, je fais une petite fiction pour France Inter. Et je suis en train d'écouter, en fait, ce qui va se passer. Je suis en train de faire mes notes et tout. Et puis là, j'entends la voix de Catherine Laborde. Et je lève la tête et je dis, mais en fait, c'est celle qui m'a bercée pendant... Elle devait faire des fictions sur vinyle. Et je me suis rendu compte que j'étais en train de faire ce que j'étais en train d'écouter quand j'étais petite, quoi. Et là, tout a été clair. C'était évident que moi, je voulais faire ça. Et j'y suis venue même malgré moi, en fait. C'est très bizarre. Et il y a une autre histoire aussi à laquelle je pense qui a participé à ma volonté de faire de la radio, mais sans le savoir encore une fois. C'est que je suis complètement amoureuse de certains sons dans la vie, notamment celui de... Si je pouvais rencontrer cet homme, ce serait génial, s'il m'entend, voilà. C'est l'ingénieur du son des films de David Lynch que je trouve absolument merveilleux. C'est toujours le même. Et il a un son particulier, il arrive à faire ressortir des sons qui sont ronds, chauds. Et il y a un son particulier qui me plaît énormément, c'est le bruit des talons sur le perron dans le film Mulholland Drive, et à voir après dans toutes ces séries, les films Twin Peaks, tout ça, c'est le même, je l'ai entendu nulle part ailleurs. Et voilà, et tout ça a participé à l'envie que j'avais de faire du son, mais uniquement du son. J'ai pas envie de faire du son et de l'image, je veux du son à lui seul. C'est un élément qui est absolument formidable pour travailler avec. Il a un corps, il a, ce que je disais, une couleur, une odeur. Je peux l'amalgamer à plein d'autres choses. Pour moi, c'est quelque chose de très, très entier et de manipulable, mais mouvable, qui va chercher vraiment, en fiction en tout cas, très loin dans nos tripes. C'est brut, Enfin voilà, moi ça me parle beaucoup. Et en plus, entre la stéréo, le binaural et tout, c'est encore des sensations différentes. Et c'est une exploration limite de soi-même des fois, quoi. Et la radio m'attire pour ça, parce que on travaille uniquement le son. Voilà.
Et ça, c'était la voix d'Émilie Couette, opératrice du son à Radio France. Emmanuel Gibello, vous avez donné un mot, un nom tout à l'heure, le MOLF. Il se trouve qu'il y a une machine pas très loin derrière vous, là, une sorte de grande tablette posée sur une table. C'est ça, le MOLF, c'est cette tablette ?
Oui.
Oui, ça veut dire quoi, MOLF ?
Ça veut rien dire.
Ça veut rien dire, mais c'est bien aussi.
Oui.
Et donc, cette tablette est un instrument pour vous ?
Ah, c'est complètement un instrument, et son archer, ce sont des toupies.
Ouais.
En fait, on en joue à la toupie et il y a tout un mode de jeu qui se crée grâce au lancer de toupie.
Les toupies glissent sur la tablette et jouent de manière aléatoire. C'est ça, c'est cet équilibre. Là aussi, cet équilibre de l'aléatoire, de l'incertitude, la toupie. Ça tourne pas, ça tourne longtemps, ça tourne pas longtemps.
Oui, tout à fait, tout à fait. Après, il y a Bon, c'est encore un instrument en cours de développement et le but, c'est quand même qu'on puisse en jouer réellement tout en étant justement tributaire du chaos et donc de choses imprédictibles qui se passent et qui génèrent des accidents dans le live.
Soyons tributaires du chaos avec vous donc à travers cette performance que vous nous offrez. La base sonore qui sert pour ce soir, pour ce jeu avec le MOLF, ce sont donc, vous l'avez dit, des éléments enregistrés lors de ces 28 jours de mouvement social à la radio. Donc on va entendre des bribes de voix, de sons, et puis on va voir ce que le chaos donne, c'est ça ?
Alors, si le MOLF veut bien se prêter au jeu, parce que parfois il sort un petit peu ce qu'il veut, et donc il y a d'autres sons, il n'y a pas que des sons de la radio.
Oui, il faut rajouter un peu d'incertitude dans le chaos.
Voilà,
toujours.
Donc, mais non, a priori il est clément, donc on verra.
Très bien. Le MOLF est clément, on va voir ça. Merci, et donc on vous écoute, rejoignez votre table de performance et de travail.
Playlist, en raison d'un appel à la grève. Playlist.
Bien-être encore. Bien-être encore.
Du gros trou qu'il y a actuellement dans les budgets.
La grève, écoutez. La grève, écoutez. Jeudi 19 mars.
Thank you.
C'est une inventeuse de machines sonores, Emmanuelle Gibello. C'est le Molf qui a joué. Vous avez joué du Molf, Emmanuelle Gibello. Il a été clément, vous l'aviez dit, hein, vous l'aviez promis. Et donc, Envie de Radio, Radio Envie, on peut le dire dans plein de sens, le titre de la pièce que vous nous offrez ce soir, donc aux pièces originales.
Oui, et qui sera, je pense, uniquement joué chez vous.
Merci beaucoup.
Les plus beaux souvenirs de radio que j'ai, c'est écouter de la radio et d'arriver à être dans un moment entre le rêve et la réalité, entre le sommeil et la veille. C'est au bout d'un moment, quand tu écoutes comme ça, cette espèce d'intimité avec ce qui sort de... C'est Francis Ponge qui disait de la boîte à ordures. Avec de l'intimité qui sort de la boîte à ordures et qui te plonge dans une rêverie.
Bah, moi, la radio, je l'ai écoutée depuis que je suis enfant. Je suis née dans un petit village des Hautes-Pyrénées et c'est vraiment elle qui m'a fait grandir. C'est elle qui m'a éduquée, c'est elle qui m'a nourrie, c'est elle qui m'a fait voyager, c'est elle qui m'a cultivée. Et depuis que je suis enfant, j'ai envie d'en faire parce que vraiment, c'est elle qui m'a fait grandir. Je ne peux pas dire mieux. Bah, j'avais un père qui était branché sur France Culture toute la journée, qui avait des mini-cassettes, qui enregistrait les émissions, qui mettait des petites étiquettes, puis qui se les réécoutait avec son casque. Et il avait aussi un vieux magnétophone, il enregistrait les oiseaux. Et donc finalement, le son a toujours beaucoup compté pour moi. Bah, moi, je pense que je fais de la radio pour comprendre comment les autres font, quoi, pour vivre, pour tout simplement...
Voilà, Martine Abbat, productrice à Radio France. Et juste avant elle, c'était Jean-François Néolier, coordinateur technique à Radio France. Andy Hemmler. Andy Hemmler,
bonsoir.
Bonsoir. L'homme du méga octet, hein, c'est ça, c'est un peu votre laboratoire personnel, oui, collectif aussi, hein, cet ensemble.
Ça existe toujours depuis 25 ans.
Oui. Ça, depuis 25 ans. Et puis, donc on l'a dit, compositeur, improvisateur. On parlait du travail que vous meniez en ce moment avec l'Orchestre National de Lille son directeur Jean-Claude Casadesus. Et puis, en janvier, vous travaillez avec un autre orchestre, c'était l'orchestre de Dijon, Bourgogne, c'est ça? Vous avez travaillé sur quelque chose qui s'appelle...
Oui, j'ai fait une expérience de direction pour la première fois de ma vie avec un orchestre symphonique où on a mélangé une rythmique un peu rock'n'roll, des musiciens de jazz, des chanteuses lyriques, et on m'a demandé d'écrire une pièce pour tout ce petit monde. Et...
How to be together, c'est ça?
Voilà, hein, vous en savez des choses.
Ouais, bon, on se renseigne un peu, on trouve des choses. Mais c'est bien comme titre ça, comment être ensemble.
Oui, ben, on est en plein dedans, hein. Ouais. C'est How to be together. J'ai dû même écrire un texte qui parlait à la fois, c'était métaphorique autour d'un couple, mais ça voulait bien dire comment le vivre ensemble. Et sachant qu'on a commencé les répétitions en janvier, c'était aussi malheureusement d'actualité.
Oui, absolument. Ouais. Alors, il y a un sujet que je voulais aborder rapidement avec vous, qui est, il y a une carte qui tourne en ce moment, qui est une carte évolutive des festivals qui n'auront pas lieu, en particulier cet été, des lieux culturels qui ferment. Il y a ça d'un côté, et puis il y a aussi, alors il y a eu des choses qui sont passées, c'était pendant ce mouvement social à la radio, donc peut-être qu'il n'y a pas eu autant l'écho, on aurait pu en parler d'ailleurs ici à ce moment-là, mais on en parle maintenant, c'est l'État qui se désengage des conservatoires, ça c'est une information qui est passée. Vous travaillez avec non seulement des étudiants, des amateurs, des professionnels, vous aimez bien mélanger et apprendre, enseigner.
Ben oui, en fait, le son, la musique, c'est fait pour faire du bien. Un pays qui détruit en quelques mois 60 à 70 ou 80 ans de construction culturelle, c'est un désastre. L'expérience de Radio France n'en est malheureusement qu'un élément parmi tant d'autres. Aussi, et c'est vrai que...
On est là ce soir. Hein.
Ben, vous êtes là ce soir, bien sûr.
Vous aussi.
Mais c'est vrai que je crois que c'est Varese qui disait dans cette même maison dans les années 50, un enregistrement qui existe sur CD, où il disait « attention quand le divertissement prend le dessus sur la culture, développer l'imaginaire, le spectacle vivant, tout ça, c'est quand même notre nourriture de tous les jours, les gens en ont besoin, or on est en train de faire l'inverse, et ceux qui décident malheureusement de faire le chemin reculons se rendent pas compte historiquement de ce qu'ils sont en train de détruire et vont devoir vivre avec ça ». Toute leur vie, parce que dans quelques années, ils s'apercevront de l'énormité de ce qu'ils sont en train de faire, historiquement. Et je crois que, bah, comme on est dans l'éphémère et que ces gens-là ne font que passer, ce sont des gens qui sont devenus inutiles à la société.
Vous avez participé à une mission sur l'enseignement de la musique.
Oui, aussi, je crois, il y a deux ans. Avec Jean-Claude Casadesus, avec Didier Lecoud et plein d'autres, Bruno Mantovani. Bah, il se trouve que moi personnellement, j'ai été éduqué dans les années 60 dans une école américaine, parce que ma mère est anglaise, à Paris, et on avait cours que le matin et on faisait sport et culture l'après-midi. Dans les années 60, on voit qu'aujourd'hui en France, dès qu'on change une heure d'activité extrascolaire, ça fait un scandale partout. Je veux dire, faut arrêter les conneries, faut confier aux gens qui sont des gens compétents, qui savent de quoi ils parlent, les décisions, et pas à des gens qui ne font que passer, qui veulent marquer l'histoire par leur passage, quoi. Ça coûte de l'argent, ça sert à rien, et ça fait du mal à tout le monde. La culture, la musique, le reste, l'art, le spectacle vivant, c'est bon pour développer l'imaginaire, pour faire du bien aux gens. C'est essentiel pour que le reste marche bien. Or, voilà, le raisonnement de ces gens-là, malheureusement, est à l'inverse de ça, et ça me chagrine, quoi. Il n'y a pas que moi, visiblement, en tout cas.
Une des conclusions de cette mission à laquelle vous avez participé sur l'enseignement de la musique, c'était, imaginons, un tronc commun pour tous les enfants.
Oui, c'est-à-dire l'oralité, comme on l'a pratiqué pendant des siècles, c'est-à-dire on commence la musique avec l'oralité, avec quel que soit le chemin pris. Hein, je veux dire, aujourd'hui, on est dans les sons, les métissages. Le XXe siècle a inventé énormément de choses, et l'électricité y a rajouté, le rock, on parlait avec Jean-Michel, la musique progressive, et tout ce qu'on a entendu déjà ici sur ce plateau, c'est tout ça peut se pratiquer très vite. Et avec aucune connaissance. Mmh. Le plaisir d'abord de faire les choses ensemble. Et ensuite, on peut chercher à se spécialiser vers la musique classique, la chanson, la musique électroacoustique, l'électro, le funk, le rap, le jazz, ce qu'on veut. Mais donnons l'appétit d'apprendre avec l'oralité et le bonheur de faire ensemble. Et après, on peut parler d'information peut-être. D'ailleurs, l'envie d'apprendre vient du plaisir et non pas l'inverse. On apprend bien à parler avant d'apprendre à écrire. Or, dans l'éducation musicale, on a fait pendant un siècle... On apprend à écrire d'abord avant de savoir parler. Mmh. Et là, on a tout faux.
Vous parlez d'appétit, Andy Hemmler. Le nôtre est ouvert d'appétit pour vous écouter.
Je vais faire un molf.
Vous allez faire un molf au piano.
Musique ouverte, libre et franche.
Ah, très bien. Allons-y pour ce néo-molf. Andy Hemmler, vous installez au piano du studio 107, l'atelier du son ce soir sur France Culture célèbre la musique. Vivante, le son vivant et le live.
No more music. No more live. Thank you.
Retour aux ondes ce soir dans l'atelier du son. Andy Hemmler, vous étiez au piano, vous nous avez offert cette improvisation. Merci, vous restez. Hein.
Merci.
Ce que j'aime dans la radio, du coup, par rapport à beaucoup de choses, c'est l'esprit de partage, créativité, la rencontre avec des gens et leurs projets. C'est pouvoir essayer de trouver des solutions pour embellir un contenu. Et chaque petit détail, justement, chaque petit détail a son importance. Et la radio n'est que détail, moi je trouve. Et si on n'a pas envie de les entendre, on est capable quand même de comprendre et de passer un bon moment. Puis si on arrive à décrypter et à comprendre ces petits détails... voilà, que chacun apporte, ça peut faire un truc génial, un déclic, voilà, par exemple.
Pierrick Charles, chef opérateur du son, c'est lui qui parle à l'instant, c'est aussi lui qui est à la régie de l'émission de ce soir. Voilà, un don d'ubiquité ponctuelle. Pourquoi la radio? C'est la question qu'on a posée, voilà, et les réponses que vous entendez depuis le début de l'émission ponctuellement. Pourquoi la radio? Une question ouverte et pourquoi pas d'ailleurs, hein, à interpréter comme on veut. Après 28 jours donc de grève, l'atelier du son et toutes les autres émissions reprennent. On en profite pour célébrer ce soir la musique vivante, le son vivant, l'échange avec une série d'invités exceptionnels ce soir dans l'atelier. Du son, il y a David Fenech, Vincent Eplet, il y a Khalid K, il y a Jacques Berrocal, il y a Andy Hemmler, il y a Emmanuel Gibello et Jean-Michel Espitalier, voilà, du monde autour de la table. Il existe une revue en ligne, Syntone, S-Y-N-T-O-N-E, qui analyse, critique, observe la radio et qui a donc observé le mouvement de ces 28 derniers jours. Mardi, Syntone a même publié un texte qui donne sa vision de ce qui s'est passé pendant ces 28 jours. Qui parle d'ailleurs d'une forme d'énergie positive, c'est ce qui leur est parvenu, notamment à travers des émissions qui ont été produites autour du mouvement. Et dans ce texte qu'on met en lien sur le site de l'émission, sur franceculture.fr évidemment, il y a aussi quelques critiques qui pourraient être en creux, une forme de proposition radiophonique. C'est ce qu'on comprend quand on écoute Étienne Noiseau, le fondateur de Syntone, qu'on a appelé.
On aime bien taquiner un peu cette la façon de faire de Radio France qui est héritière de dizaines d'années d'habitudes radiophoniques, de codes, de langage bien sûr, mais aussi d'habitudes de travail, et qui fait que à Radio France on est dans une relation peut-être plus hiérarchisée avec des gens qui sont d'un côté qui sont les professionnels, qui sont les garants du savoir-faire et de ce qui est convenable de faire comme émission de radio, etc. Et puis qui vont à la rencontre des gens. Après tout, on est tous potentiellement des auditeurs, et vous, les professionnels en premier, vous êtes même des auditeurs de profession, on pourrait dire. Donc on avait envie un peu de questionner cette relation de producteur ou productrice d'un côté et auditeur-auditrice de l'autre. On trouvait qu'il y avait peut-être une démarcation à effacer, peut-être un peu plus. Et je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, je pense qui a été tout à fait spontané, pas du tout conscientisé ou volontaire dans la façon qu'ont eu les producteurs et les productrices pendant la grève de vouloir aller à la rencontre de l'auditeur malgré tout, malgré le silence radio. Et je pense que c'est peut-être le début de quelque chose de différent dans cette relation à l'auditeur. Qui, à mon avis, a questionné aujourd'hui. Je pense que la grève a révélé les auditeurs aussi, parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui se sont manifestés positivement ou négativement par rapport à ce mouvement, en apportant leur soutien, parfois critique, etc. Mais en étant très, très préoccupés, très engagés dans ce qui se passait, parfois agacés. Et je pense qu'il y a peut-être quelque chose de votre côté à rattraper, ou en tout cas à repenser différemment.
Repenser le lien avec vous, auditeurs, mais oui, pourquoi pas, toujours, en tout cas toujours prêt à échanger, en l'occurrence échanger avec Étienne Noiseau, Syntone, le fondateur de cette revue, Syntone, S-Y-N-T-O-N-E, faut toujours le rappeler, c'est une revue en ligne donc qui parle de radio, et Syntone, du web, passe au papier, enfin pas seulement, complète avec du papier, c'est tout récent, Syntone développe une série de carnets, dont les quatre premiers, la première année des carnets de Syntone, est consacrée à la fiction, à la radio, c'est donc à suivre. Bonsoir Jean-Michel Espitalier.
Bonsoir Thomas, bonsoir tout le monde.
Merci à tout le monde et à vous. Donc, c'est votre tour dans ce tour de table. Merci d'être là parce qu'on parle de musique, de son vivant. Et dans le son vivant, il y a la voix. Vous êtes poète, auteur, poète, et vous faites partie, on peut dire ça, d'une génération de poètes qui arrivaient évidemment après les livres, mais arrivaient aussi après, par exemple, quelqu'un comme Bernard Haitzig, qui le dit, a sorti le texte du papier, Bernard Haitzig, qui est disparu il y a peu de temps. Vous, finalement, vous le support,
je suis bien
vous,
partout.
Vous jonglez, vous êtes bien,
je suis
partout.
Ouais. Je suis bien derrière des cymbales, je suis bien sûr. Enfin, ouais. Moi, je me sens très à l'aise dans le livre. Il n'y a pas de rapport compliqué avec l'objet livre, avec son côté tyrannique, enfin l'histoire, etc. Enfin, tout ça est un peu usé.
On parlait de revue, là. Vous étiez occupé d'une revue qui s'appelait Java.
Oui, qui s'appelait Java. Mais je suis bien aussi dans le son. C'est-à-dire que j'aime bien aussi monter sur scène. J'aime même, soit sur des performances vocales, etc., avec du son, soit avec la batterie, soit même avec la musique, puisque j'ai eu pas mal de groupes rock, post-rock, post-punk, etc., jusqu'à 2011. Bon, voilà. Donc, je suis un peu une sorte de hub ou de. Mais je crois aussi, j'en parlais avec Andy tout à l'heure, c'est qu'on est généré par la culture qui nous a apporté, qui nous a formé et transformé. Et moi, ma culture, comme tout le monde aujourd'hui, enfin, c'est aussi à quelque chose d'un peu générationnel. Moi, c'est Francis Ponge ou Rimbaud, mais c'est aussi Jean-Luc Godard ou les Sex Pistols ou Joy Division ou Marc Rothko. Enfin, voilà. Donc, il y a quelque chose qui fait qu'on est généré par plein de choses. Donc, il n'y a pas de raison qu'on se mette à devenir monomaniaque sur un médium.
Et cette multitude, on la retrouve dans Salle des Machines, qui est parue chez Flammarion il y a quelques semaines.
Oui, c'est ça. Oui, courant janvier, en fait, qui est une sorte de livre, un peu une sorte de medley, pour rester dans l'univers du son, ou de compile, parce qu'en fait, ce sont trois, enfin, c'est mon éditeur qui m'a proposé ça, trois petits bouquins que j'ai publié en 95, 2001 et 2004 et qui sont épuisés. Mmh. Et il m'a dit, il voulait que je les reprenne, que je les enrichisse avec des inédits, etc. Et puis donc, c'est aussi un livre d'inédits puisqu'il y a une quatrième section qui est un recueil, on va dire, j'aime pas trop ce terme, de textes inédits écrits dans les années 2000-2010.
Et c'est issu de Salle des Machines, ce que vous nous proposez ce soir?
Oui, alors je vais vous lire un texte que j'ai, donc, qui est publié dans un livre qui s'appelait En guerre, publié en 2004. Et c'est un petit bouquin qui a été inspiré par la question de la guerre en général et par la question de la guerre en Irak en particulier, parce que la crise irakienne date de 2003 et le livre a été écrit dans la foulée.
On vous écoute. Jean-Michel Espitalier, vous vous approchez du micro debout, du micro tout droit, et c'est à vous.
Nous sommes l'axe du bien. Nous faisons le bien et portons le bien au mal qui fait du mal au bien. Nous sommes l'axe du bien. Nous sommes l'axe du bien en lutte contre le mal, contre l'axe du mal. L'axe du mal fait le mal où se trouve le bien. Nous sommes l'axe du bien en lutte contre le mal. L'axe du mal fait le mal au bien qui lutte contre le mal. Nous sommes les forces du bien pour le bien des forces du bien qui luttent afin de rétablir le bien de l'axe du mal. Nous sommes les forces du bien. Le mal de l'axe du mal fait mal au bien qui est le bien et nous devons lutter contre leur bien qui est le mal. Ils sont l'axe du mal. Nous sommes l'axe du bien. L'axe du mal porte le mal au bien qui est son mal. L'axe du bien porte le bien au mal qui est son mal. L'axe du bien porte le bien au bien du mal qui est son mal. Nous sommes les forces du bien et nous devons faire mal au mal pour le bien de l'axe du bien dont le bien est le mal. Nous sommes l'axe du bien. Ils sont l'axe du mal. Le bien voit que le mal est mal parce qu'il est le bien. Seul l'axe du mal fait le mal et veut du mal au bien ou ne veut pas de bien à ce qu'il pense être le mal et qui est le bien. Nous sommes les forces du bien en lutte contre les forces du mal qui veulent notre mal. Nous faisons mal aux forces de l'axe du mal pour notre bien, car leur bien est notre mal et le bien est le mal que nous faisons à leur bien qui fait le mal au bien. Le bien triomphera des forces du mal. Le bien fera triompher le bien. Le bien fera triompher le bien des forces du bien. Le bien ne peut faire triompher le bien que parce qu'il est le bien. Nous sommes les forces du bien et nous devons faire mal à l'axe du mal, au nom du bien, contre le bien des forces du mal, au nom du bien des forces du bien en lutte contre les forces du mal. Nous sommes les forces du bien. Ils sont les forces du mal. Nous sommes le bien et nous voulons du mal aux forces du mal qui nous veulent du mal. Nous sommes les forces du bien et nous voulons du mal aux forces du mal pour leur bien, non sans mal. Le bien du mal est le mal. Le bien du bien est le bien. Le bien du bien est le mal pour le mal. Le mal du bien est encore le bien. Le bien de l'axe du mal est toujours le mal. Ils veulent du mal à notre bien qu'ils jugent être le mal et qui est le bien, non sans mal. Nous sommes l'axe du bien. Nous voudrons du bien à l'axe du mal quand il sera devenu l'axe du bien, non sans mal. Les forces du bien reconnaissent l'axe du mal à ce qu'il est le mal. Les forces du bien reconnaissent le mal à ce qu'il n'est pas le bien. Les forces du bien reconnaissent le mal à ce que l'axe du bien lui veut du mal. Les forces du bien sont le bien parce qu'en tant que force du bien, elles ne peuvent qu'incarner le bien, non sans mal. L'axe du bien est le bien parce que l'axe du mal lui veut du mal. L'axe du bien fera triompher le bien des forces du mal parce qu'elles sont le mal et qu'il est le bien. Non sans mal.
Jean-Michel Espitalier, issu donc de Salle des machines, paru chez Flammarion, et anciennement de En guerre, donc repris dans ce recueil-là. Jacques Bérocal, je voyais accompagner la scansion et la lecture de Jean-Michel Espitalier.
Très beau.
Ouais.
Merci.
Pourquoi la radio ? Pour son pouvoir d'évocation, déjà, puisque la radio, c'est impensif que de dire ça, mais c'est le son, et à travers les sons, on peut dire beaucoup de choses. Ça permet à l'imaginaire de chacun de travailler, contrairement à la télévision ou à l'image, où l'image nous est imposée. Puis la radio, moi c'est ce que j'aime surtout dans la radio, c'est qu'on peut l'emmener de partout, quel que soit le support. D'ailleurs, qu'on écoute la radio sur son vieux poste à pile, sur son smartphone ou sur son ordinateur, c'est vraiment... on peut être à la montagne, à la mer. Et d'ailleurs, moi je suis journaliste, et ce qui m'avait marqué, je crois que c'est lorsque les journalistes de France 3, qui étaient en otage en Afghanistan, sont rentrés et qu'ils expliquaient que le seul lien qu'ils avaient gardé isolé dans leurs montagnes afghanes avec le monde, c'était via la radio et via nos confrères de RFI d'ailleurs. Voilà. Donc la radio, c'est à mes yeux l'un des plus beaux médias, et j'espère que nous pourrons continuer à en faire le plus longtemps possible.
Mais toi, comment la radio alors ?
Chez moi, on écoutait beaucoup la radio. Mes parents, mes grands-parents, sur le poste à pile, justement. Et j'ai été... ça m'a accompagné quand j'étais jeune. Après, j'ai fait de la radio associative. C'est généralement un bon... C'est très créatif, souvent, les radios associatives. Avec peu de moyens, on fait des... Ouais, avec beaucoup d'énergie et peu de moyens, on arrive à faire de très belles choses. Mais ça m'a fait rêver, quoi. Puisqu'on est sur France Culture, moi, il y a quelqu'un qui m'a beaucoup marqué quand j'étais lycéen et étudiant, c'est Yann Parentoine. Bah, quand on écoute les documentaires radiophoniques de Yann Parentoine, là, quand on parle de pouvoir d'évocation de la radio, tout de suite, ça prend tout son sens. Voilà.
Pourquoi la radio depuis le début ? Le début, c'est mon grand-père qui était ingénieur du son ici, du temps des grandes oreilles. Et moi, je ne savais pas que mon grand-père était ingénieur du son ici, parce qu'il est parti à la retraite quand je suis née. Pour moi, mon grand-père, il était toujours retraité. Et quand j'ai commencé à m'intéresser au son, je me suis rendu compte que mon grand-père avait travaillé dedans. Et puis j'ai commencé mes études, il fallait faire un stage. Je me suis dit, pourquoi pas aller voir... à la maison de la radio, là où il travaillait, et c'est ici que j'ai appris que ça avait été quelqu'un d'important, et surtout que j'ai pris le goût pour la fiction. J'ai fait un stage où on nous donnait des plannings pour voir un petit peu la musique, les émissions, les fictions, tout ça, et moi j'ai tellement aimé la fiction qu'en fait j'ai passé le mois entier rien qu'à la fiction. Je me suis greffée à une équipe qui m'a intégrée et qui a commencé à me prendre un peu sous son aile, et je me suis dit, c'est là que je veux travailler.
Manon Houssin, opératrice du son à Radio France, c'est elle qui parlait à l'instant, et justement c'était Yann Galit qui est journaliste à France Inter. C'est des histoires à la radio, c'est des histoires qu'on raconte, des histoires qui passent sur les ondes, mais c'est les histoires aussi de ceux et celles qui sont à l'intérieur, dans la salle des machines, pour reprendre le titre de votre livre, Jean-Michel Espitalier, ce soir. Mais c'est presque la fin, quoi, de l'atelier du son, ce retour aux ondes, ode au son vivant et à la musique vivante. Mais alors, ça va être à votre tour, David Fenech, Vincent Eplé, Jacques Bérocal, pour un extrait de Antigravity. Non, vous ne vous levez pas tout de suite, Jacques Bérocal, on va discuter un tout petit peu avant. C'est quand même, parce qu'il y a une chose qui est, vous disiez tout à l'heure, Vincent Eplé, c'est trois ans de travail ensemble. Quand est-ce qu'on sait que c'est terminé, ces trois ans, David Fenech ?
On sait quand on a un disque, en fait. Quand on part avec des morceaux, on arrive avec un disque.
Ouais.
Et
on sait qu'on a un disque.
On sait quand on a un disque, quand ça fait un parcours. En fait, un disque s'écoute du début à la fin, ou parfois par morceau. Hein. Maintenant, les usages sont différents. On peut écouter un morceau sur YouTube ou ailleurs. Mais quand la construction fait un sens et se développe et a le juste temps, c'est comme une conversation. Faut pas que ça soit trop long, faut pas que ça soit trop court. Il faut que ça soit nous et que ça raconte quelque chose. Et je pense que c'est un long chemin avant d'arriver à un disque. Et on a encore eu plus cette sensation quand on a reçu le retour du mastering. On a fait masteriser à Londres. On a eu un peu l'impression d'envoyer des bribes de morceaux et de recevoir vraiment, là, pour le coup, un disque formaté et qui sonne.
Formaté,
comme
mais je crois pas tant que ça. Formaté dans le sens où c'est un format, mais oui. Jacques Derocal.
Oui. Moi, je dirais qu'on sait qu'on a fini quand on est épuisé. On n'en peut plus. On ne sait pas si c'est bien, mais on pense qu'on ne peut plus aller. Il faut arrêter, ouais, passer à autre chose.
Il faut arrêter pour le partager, Vincent Eplet.
Oui, puis bon, c'était 3 ans aussi de vrais échanges, de vrais plaisirs. Mmh. C'était des rendez-vous réguliers qu'on s'est donnés comme ça. On savait qu'il allait se passer quelque chose, mais on ne savait pas exactement où ça allait nous mener. Et c'était une manière, à un moment, de resserrer tous ces instants, tous ces moments qui ont été quand même dans l'idée de choses sorties d'une manière assez directe, assez spontanée comme ça. Et c'est des vraies conversations. Et puis le disque rend compte de ce moment-là, de cette période-là. Après, évidemment, on va peut-être changer de conversation, mais on va continuer.
Et puis ça va se poursuivre sur scène. Ça va se poursuivre sur scène.
Exactement. Ouais, c'est
avec les films de Vincent, c'est très important.
Les films de Vincent Eplet.
Ouais.
Et ça va se passer pour terminer cette émission. Donc, grâce à vous trois, pour terminer, donc un extrait de ce Anti-Gravity qui est paru sur le label Blackest Ever Black. Hein, c'est bien ça. Exactement. Voilà. Donc j'ai lu d'ailleurs une critique qui disait que c'est une noirceur pleine de teintes et de densités différentes. Donc peut-être une version de Soulage en musique et en trio. Donc comme on va vraiment terminer et se plonger dans la nuit grâce à vous, juste je dis que l'émission est terminée. Il y avait quelques annonces quand même à dire. D'abord, merci à Ramuncho Mata et à Noël Akchoté qui auraient bien voulu être là mais qui n'ont pas pu être là. Mais sans doute qu'ils reviendront un de ces jours. À noter aussi que l'Usestival de la compagnie Luba se délocalise ces jours-ci au Théâtre de l'Européen à Paris à partir de dimanche soir et pour 4 jours avec notamment Richard Boringer et Michel Portal. Suivez les flèches, j'avais promis de le dire à Juliette Capla qui pouvait pas non plus être là, mais je transmets le message. En ligne, vous retrouvez toute une série de compléments ainsi que la réécoute et les podcasts et les commentaires pour l'atelier du son sur franceculture.fr. L'atelier du son est préparé et coordonné par Inès Demorine, réalisé par Véronique Lamondour. Au son ce soir, il y avait Pierrick Charles et Romain Lenoir. Dans un instant, après la performance de David Fenech, Vincent Eplet, Jacques Derocal, vous retrouvez Aurélie Charron. On vous souhaite une bonne nuit, mais d'abord écoutez. À vendredi prochain.
Merci Thomas, belle suite de nuit à vous. Voilà ce que vous entendrez la semaine prochaine dans les ateliers de la nuit. Mardi soir, dans l'atelier fiction, un roman de détective privé de sa dernière page, de Pierre Sange, qui imagine un monde où le roman policier n'a pas encore été inventé. Edgar Poe n'a jamais écrit double assassinat dans la rue Morgue, Conan Doyle a préféré poursuivre sa carrière de médecin et Agatha Christie est devenue archéologue. Tout reste donc à inventer. Mercredi soir, Frédéric Pajac, portrait dans le miroir à trois faces par Christian Rosset, à l'occasion de l'exposition organisée par Pajac autour de l'aventure du cahier dessiné à la Halle Saint-Pierre. Jeudi soir, The Smell of Sex de la réalisatrice libanaise Danielle Arbid. C'est la génération de l'après-guerre civile. De jeunes Libanais se livrent sans tabou sur leurs pratiques sexuelles. Enfin, vendredi soir, dans son atelier du son, Thomas Baumgartner reçoit Alvin Lucier en duplex du Connecticut, compositeur américain considéré comme l'un des plus influents de sa génération. Je vous dis à lundi pour l'atelier intérieur, nous serons en direct de 23h jusqu'à minuit avec Frédéric Boyer qui vient de donner une nouvelle traduction du Kama Sutra. N'oubliez pas qu'après 28 jours de silence, la radio publique et les ateliers de la nuit reprennent, tout en restant vigilants pour leur propre survie. Vous pouvez podcaster jour et nuit les ateliers fiction, création, son, atelier intérieur. Tout est sur le site internet de France Culture. Il est bientôt minuit et c'est l'heure des nuits.